tous les auditeurs de Radio MDM dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire » qui est consacrée à l'histoire et au patrimoine de la région du Marsan. Mais je le rappelle, un Marsan beaucoup plus vaste que le Marsan que vous connaissez aujourd'hui. Un Marsan qui s'étendait jusqu'à Cap-Sieux, puis au sud jusqu'à Aire du Haut-Bachin-Renung, à l'est jusqu'au Gers au moins, et à l'ouest jusqu'à Campagne. Pendant les précédentes émissions, j'étais en compagnie de Didier Vigneault, archéologue, qui nous a présenté les dernières découvertes sur le Marsan durant la période de la fin de la préhistoire, l'âge du bronze, puis l'âge du fer, c'est-à-dire le dernier millénaire avant notre ère, et ensuite sur le Marsan gallo-romain. Alors, ce Marsan gallo-romain se termine, on va dire en gros, aux environs, oui, peut-être du 6e siècle, mais là, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la période qui va suivre, qui est une période assez peu connu parce que nous n'avons pas de texte quasiment, nous n'avons pas beaucoup de résultats de fouilles archéologiques. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'a été l'histoire de cette longue période, quand même 500 ans, 5 siècles, eh bien il faut donc utiliser d'autres ressources historiques. Dans cette émission, j'ai l'intention de vous parler essentiellement de la région du Marsan. Mais si l'on veut comprendre la place du Marsan dans l'histoire et de la région Aquitaine ou de la région Gascogne, ainsi que sa place dans le royaume franc ou le royaume de France plus tard, eh bien, il faut commencer par poser effectivement des cadres chronologiques. Alors, le cadre chronologique, eh bien, c'est d'abord la fin de l'Empire romain que nous avons très rapidement évoqué la semaine dernière avec Didier Vigneault. Empire immense qui s'étendait donc sur l'ensemble de l'Occident et une partie de l'Orient et qui s'était divisé en deux, entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Or, l'Empire romain d'Occident commence à subir des crises qui sont liées peut-être à son immensité, à différents facteurs sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais aussi à des luttes entre un certain nombre de généraux qui souhaitent accéder donc au trône impérial à certains moments, mais également à l'arrivée de populations venues des régions germaniques ou du centre de l'Europe, notamment de la région du Danube, qui sont des populations germaniques. Alors on a souvent parlé d'invasions barbares, c'est un terme que les historiens n'utilisent plus, ce ne sont pas des invasions, c'est pas du tout un mouvement de population massif, ce sont des mouvements de population qui se font par vagues, qui dans certains cas vont occuper des régions qui sont peu peuplées, dans d'autres cas ont effectivement, pour arriver à s'installer, procédé par pillage, violence, etc. Et donc ces populations vont couvrir l'ensemble de l'Empire romain. On va avoir par exemple les Visigoths qui s'installent dès le 4e siècle sur l'Aquitaine, une partie de l'Aquitaine en tout cas, notamment la région entre la Garonne et Toulouse, et ils descendent jusque dans une grande partie de l'Espagne en laissant de côté le Portugal et le nord-ouest de l'Espagne. Nous avons donc les Visigoths, nous avons les Ostrogoths dans la région de la France située plus à l'est, les Burgondes sur la Bourgogne, les Alamans par exemple sur la région qui a donné l'Alsace, puis ensuite toutes les régions allemandes, les Suèves, bref, nous avons de très nombreuses populations qui vont finalement s'installer sur les débris de cet empire romain d'Occident. Pour ce qui est de la région qui nous intéresse, deux peuples germaniques vont rentrer en rivalité. Ce sont les Visigoths, dont je viens de parler tout à l'heure, installés donc sur le sud-ouest et l'Espagne, mais ensuite les Francs, qui eux, se sont installés dans le nord de la France et une partie de la Belgique actuelle. Et ça, nous en reparlerons tout à l'heure. Les Francs vont créer une dynastie, la dynastie des rois mérovingiens, dont le plus célèbre est Clovis. Clovis qui a régné entre 481 et 511. Clovis a eu plusieurs enfants qui se sont disputés d'ailleurs pour son royaume. Et c'est l'ensemble de ces disputes qui vont affaiblir les rois mérovingiens jusqu'au dernier qui va être déposé en 751 par un nouveau venu, Pépin le Bref, de la famille des Carolingiens. Pépin le Bref est le père de Charlemagne et à partir de 751 jusqu'en 987, ce sont donc ces fameux Carolingiens, notamment les descendants de Charlemagne, qui vont gouverner l'ensemble du royaume franc, mais là, beaucoup plus étendu encore que précédemment. Et à partir de 987, eh bien, nous avons, sur le royaume franc, le premier roi capétien, Hugues Capet. On connaît les événements clés de l'ensemble de l'Aquitaine et de la Gascogne, qui est la partie sud de l'Aquitaine, c'est-à-dire au sud de la Garonne. Et les Wisigoths, en ce qui nous concerne, vont donc s'installer sur l'ensemble du sud-ouest. Ils ont d'abord eu comme capitale la ville de Toulouse, mais ensuite ils sont battus par les Francs menés par Clovis à la bataille de Vouillé en 507. Ils vont donc perdre Toulouse. Ils déplacent alors le centre de leur royaume au sud de l'Espagne, à Tolède, bien qu'ayant conservé quand même quelques territoires, notamment au niveau du Languedoc. Ils deviennent chrétiens, mais un rite chrétien qui est différent de celui de Rome. Ensuite, les Wisigoths ont eu notamment un roi qui est connu, qui est le roi Alaric, qui a promulgué un code, le bréviaire d'Alaric. C'est un code juridique qui contient notamment l'ensemble de lois gallo-romaines destinées à ce que les populations gallo-romaines et wisigothes puissent vivre effectivement en harmonie. Il faut savoir quand même que ce bréviaire a été promulgué à Aire-sur-l'Adour. Et oui, dans la cité antique d'Aire. Et ce bréviaire d'Alaric a été utilisé jusqu'au XIe siècle. Ce bréviaire a été promulgué en 506, c'est-à-dire juste avant la bataille de Vouillé. Après cette date, j'ai expliqué que les Wisigoths se sont repliés vers l'Espagne, car les Francs ont occupé l'ensemble de la Gascogne, bien qu'on n'en connaisse pas du tout les modalités du détail. 70 ans plus tard, au moins, apparaissent en 578 en Aquitaine les Vascons, qui sont peut-être les ancêtres des Gascons, on ne sait pas. En tout cas, on a peu de choses sur eux. On n'est même pas sûr de savoir quelle est la langue exacte qu'ils parlent. Et ces Vascons, en 578, quittent le versant sud des Pyrénées pour échapper à un duc Wisigoth qui les pourchassait. Ils s'installent donc au nord des Pyrénées et se répandent dans l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui la Gascogne. C'est d'ailleurs en 602 qu'apparaît pour la première fois le nom de Gascogne. Alors, parlons rapidement de la Gascogne. Tout d'abord, il y a un mot latin pour désigner les Vascons, Vascones, et le territoire qu'ils habitent, la Vasconie, c'est Vasconia en latin. Jusqu'au XIe siècle, on ne différencie absolument pas dans les sources les Basques et les Gascons. En revanche, à partir du XIe siècle, la différence effectivement commence à se faire, car les Basques sont constitués effectivement par les populations de langue basque qui vivent essentiellement dans le Labourd, la future Basse-Navarre et la Soule. En revanche, les autres populations de la Gascogne parlent une langue qui est probablement l'ancêtre du gascon, qui est différent de la langue basque. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas à propos d'eux. Et une chose est certaine, c'est que ce soit des gascons ou des basques, l'ensemble de la Gascogne a toujours été extrêmement rebelle contre le pouvoir franc qui a essayé de s'imposer à partir du VIe siècle et qui n'y est généralement pas parvenu. Mais nous en reparlerons plus loin. Je vais maintenant vous parler d'un autre peuple, celui des Vikings, c'est-à-dire des Normands, les Normaines étant les hommes du Nord. Alors ces Vikings ou Normaines ont commencé à faire des incursions sur les côtes de l'Angleterre et ensuite le long de la façade atlantique jusqu'en Espagne. Au début du 9e siècle, ces populations ont acquis une maîtrise absolument remarquable de la navigation sur les océans, une grande maîtrise également de la construction des bateaux. C'est une civilisation de la mer et ils sont connus par les chroniqueurs de cette époque comme des guerriers extrêmement redoutables, pillards. Ils arrivent sur les côtes atlantiques par l'embouchure des fleuves qu'ils remontent, la Seine par exemple, on connaît le siège de Paris notamment, la Seine, la Garonne, la Loire et la Dourdre. Alors on a beaucoup parlé des Vikings et de leurs incursions en Aquitaine, les choses ne sont pas si claires, il y a eu beaucoup d'exagérations, mais il y a quand même un petit peu de vrai. Et en particulier, il est tout à fait probable qu'ils aient pris Bayonne et qu'ils aient essayé de contrôler le bassin de la Dourdre durant le 9e siècle et peut-être même au 10e siècle, mais ça on n'en est pas sûr. Alors, ils ont été vaincus à une bataille célèbre, la bataille de Thalée, avant 988, c'est-à-dire avant la fondation de l'abbaye de Saint-Sever, c'est tout ce que l'on peut dire sur la datation. L'existence de cette bataille a d'ailleurs été mise en doute, l'est encore un petit peu, mais il semble bien quand même, d'après les sources dont on dispose, qu'elle ait eu lieu. Simplement, c'est sur l'identification du lieu de la bataille que divergent les interprétations. Alors, on a longtemps attribué le lieu de Thalée à la commune commune du même nom, mais on se demande effectivement ce que les Vikings seraient venus faire à Thalé, quand même très éloigné de la Dour. Or, ils restaient toujours à proximité de leur navire, car si la situation tournait mal, ils avaient le temps de monter dans leur bateau et de repartir. C'est pourquoi il paraît assez peu plausible que la bataille de Thalé se soit déroulée sur la commune en question. En revanche, il y a d'autres lieux qui sont possibles, et en particulier Guillaume Pépin, qui est un historien médiéviste qui a fait sa thèse à Oxford, pense notamment à un lieu-dit qui se trouverait sur la commune de Préchac, Préchac-les-Bains, et qui est tout à fait proche de la Dour. Les Vikings ont été battus à Thalé par une armée du comte de Gascogne, mais on ne sait pas exactement de quel comte et on ne sait pas non plus exactement quand, avant 988. Ils ne reviennent plus en Aquitaine. Ils vont essayer cependant de lancer un dernier raid aux alentours de 1003 ou 1013 à peu près, en Vendée, puis ensuite c'est terminé, ils ne reviennent plus en Aquitaine. Mais ils ont quand même semé la terreur sur leur passage. Les chroniques du Moyen sont absolument pleines de descriptions épouvantables des pillages et des massacres qu'ils pouvaient commettre sur les populations, qu'ils emportaient d'ailleurs quelquefois comme esclaves. Alors, pour rester un petit peu dans la note, moi je vous propose les tambours vikings. C'est une musique qui rappelle l'inquiétude, même la peur que pouvaient éprouver les populations lorsqu'elles voyaient arriver les drakkars. Me revoici pour cette seconde partie de l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire » qui est consacrée à la période du Haut Moyen-Âge entre le 6e et le 12e siècle en Marsan. Pour ce qui est de la Gascogne au sens large, on a quand même quelques noms de personnages importants qui ont été des ducs. Ce sont de grands personnages. Par exemple, le premier vraiment connu, un certain Lube, qui est un puissant propriétaire terrien de la région du Bas-Adé et qui va finalement devenir duc d'Aquitaine et de Vasconie en 671, mais exilé par le roi Franc parce qu'il avait été accusé de rébellion. Son successeur, alors on ne sait pas si c'est son fils ou quelqu'un d'autre, qu'on appelle Eud, ou plutôt Ion, tout simplement pour des raisons phonétiques, a joué un rôle très important au moment des grandes invasions arabes et il a arrêté l'invasion arabe à Toulouse en 721 et c'est grâce à lui que Charles Martel a pu donner le coup définitif à l'armée arabe à Poitiers, ce dont on ne parle d'ailleurs pas très souvent. Son fils Waif a été assassiné un peu plus tard en 768, sans doute sur les ordres de Pépin le Bref, le père de Charlemagne. L'Aquitaine et la Gascogne passent sous domination franque. Ce n'est pas pour autant qu'elle va se soumettre. Ainsi, on ne peut que penser à l'épisode de Roncevaux où l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne qui revenait d'Espagne après avoir détruit complètement Pampelune, donc l'arrière-garde de cette armée fut décimée par les Vascons. Bien que Charlemagne ait créé en 781 un royaume d'Aquitaine destiné à son fils Louis, il a toujours eu du mal à soumettre complètement les Vascons. À la mort de Charlemagne s'ensuit une période relativement confuse et ensuite apparaissent les premiers comtes de Gascogne avec le premier Sanche de Mitara. Puis à partir de là, nous avons donc un certain nombre de comtes, dont le dernier sera Bernard Thumas Palère, qui va se battre contre le duc de Poitiers, Guy Geoffroy, et c'est Guy Geoffroy qui va l'emporter à la bataille de la Castelle en 1063. Cette date de 1063 est une date importante. En effet, si l'issue de la bataille avait été différente, c'est-à-dire si le comte de Gascogne, Bernard Thumas Palère, avait été vainqueur, eh bien, peut-être que l'histoire de l'Aquitaine aurait été modifiée, car ce ne sont pas les ducs de Poitiers qui seraient devenus ducs d'Aquitaine, ça aurait été à ce moment-là les comtes de Gascogne, et la Gascogne aurait peut-être été le centre de cette grande principauté. Cette bataille de la Castelle se serait déroulée sur l'actuelle commune de Dur-Bachin. C'est en tout cas ce que affirment les érudits et historiens depuis déjà le 19e siècle. Sur ce site de la Castelle, on n'a pas fait de fouilles, on n'est donc pas tout à fait que ce soit là l'emplacement de cette bataille. Cependant, c'est un site possible, car à cet endroit, la plaine de la Dour est suffisamment large pour que deux armées puissent s'y affronter. À partir de 1063, désormais, l'Aquitaine et la Gascogne sont donc unies à l'intérieur du même duché. Maintenant que le cadre historique a été posé, je vais pouvoir vous expliquer quelles sont les sources historiques dont on dispose pour connaître cette période. Parce que vous avez bien remarqué dans l'exposé que je vous ai fait qu'on a beaucoup parlé de la Gascogne, mais pas du Marsan. Et pour cause, nous n'avons absolument aucune source écrite, aucun texte, aucune chronique qui évoque le Marsan jusqu'à la fin du Xe siècle. Alors, quelles sont les sources dont nous disposons si l'on veut connaître cette période? Eh bien, il y a d'abord les acquis de l'archéologie, il y a aussi la reconstitution de la formation des paroisses dont nous parlerons tout à l'heure. Mais pour aborder les acquis de l'archéologie, j'ai demandé à Didier Vigneault, archéologue, qui avait déjà beaucoup participé aux premières émissions, de venir faire un petit point sur ce que l'archéologie nous apprend à propos de cette période lointaine entre la fin du 6e siècle et la fin du 10e siècle en Marsan. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie.
Donc pour le Haut Moyen-Âge, nous avons plusieurs éléments qui sont apparus en faveur des labours forestiers au cours de ces 20 dernières années. Nous avons fait un énorme progrès en ce qui concerne notre connaissance sur cette période, puisqu'il y a maintenant une vingtaine de sites qui sont recensés autour de Mont-de-Marsan. Il y a notamment de gros sites qui ont été découverts lors de fouilles réalisées par l'INRAP, l'Institut National de la Recherche en Archéologie Préventive, du côté de Mont-de-Marsan à Pémignan, donc sous l'actuelle prison. Et là, les intervenants ont découvert un habitat lié à une forge, ainsi que de jolis objets, notamment du verre de l'époque, de cette époque-là, du Haut Moyen-Âge. et aussi des objets métalliques comme une plaque boue. Il y a d'autres sites qui ont uniquement livré de la céramique. Alors, je veux pour exemple le site de Puy-de-Sault de Acaro, et il y a d'autres sites, notamment du côté de Bellong, qui aussi ont livré des lots céramiques assez intéressants. Lors de la fouille de la nécropole du premier âge du fer de la Glorieuse, on a aussi découvert un petit site du haut Moyen-Âge qui était matérialisé par une fosse emplie de céramique. Et ce site-là aussi daterait aux alentours du 8e siècle. Alors bien évidemment, quand on parle du haut Moyen-Âge, on fait aussi allusion aux beaux objets qui sont découverts, comme notamment les objets métalliques matérialisés par les boucles de ceinture, représentées par les boucles de ceinture, donc les très jolies boucles de ceinture du haut Moyen-Âge, avec quelquefois des décors chrétiens ou des décors floraux. Donc même si on n'a pas de décors chrétiens ici dans les Landes, on a quelques jolis décors, comme des décors floraux qui ont été mis à jour à Tartas, où il y a aussi une très jolie plaque boucle qui a été découverte à Puy-de-Sault, représentant un animal imaginaire, un griffon. Donc voilà, il y a de nombreux objets donc qui ont été découverts, comme des agrafes et aussi des fibules de l'époque mérovingienne. Voilà, comme je vous le disais, on a une bonne connaissance maintenant de cette époque-là dans notre département, et on n'est pas à l'écart des dynamiques de peuplement qui existent ailleurs.
Maintenant, je vous propose d'aborder une autre façon de comprendre l'histoire quand on n'a ni texte ni véritables sources archéologiques. Eh bien, nous allons parler de la formation des paroisses et de la christianisation. Alors, une première certitude, c'est que l'évêché d'Aix apparaît pour la première fois lors d'un concile, le concile d'Agde, en 506, en même temps que d'autres évêchés gascons comme ceux de Bazas, de Lescar ou de Dax. Or, le royaume wisigothique de Gascogne touche à sa fin à ce moment-là, puisque nous sommes à un an de la bataille de Vouillé. Ensuite, nous ne savons pas ce qui va se passer, car à partir de la fin du 7e siècle, l'évêché d'Aix, comme d'autres d'ailleurs en Gascogne, ne sont plus cités dans les grandes réunions, les grands conciles, donc il semble qu'il y ait eu effectivement beaucoup de troubles sur lesquels on ne peut absolument rien dire. Alors une chose est certaine, c'est que les premières paroisses vont se mettre en place à partir des grands domaines, des villas gallo-romaines qui existent en Marsan, dont le grand propriétaire a été converti au christianisme. C'est à partir de ces cadres-là que la première paroisse va se constituer. Alors il ne faut pas imaginer la paroisse comme un ensemble moderne avec des limites précises, un prêtre, pas du tout. La paroisse, au départ, c'est juste un petit rassemblement de personnes qui sont chrétiennes. Elles pratiquent, par exemple, dans une partie de la villa du maître qui va la mettre à disposition. Et c'est une situation que l'on rencontre très souvent dans l'ensemble de la France, voire de pays voisins. Alors, qu'avons-nous comme grand domaine, grande villa gallo-romaine en Marsan? Nous avons par exemple le domaine de Saint-Pierre-du-Mont, le domaine de Saint-Louis qui a abrité une première paroisse. On y a en tout cas découvert un sarcophage daté du 6e siècle, époque mérovingienne. Et il y a également, sans doute beaucoup plus tard, une première église qui a été édifiée. C'est une église Saint-Genès. Alors ça, c'est quand même un marqueur très intéressant. Saint-Genès, c'est en effet un personnage qui a vécu à Arles à la fin du 4e siècle et qui a été décapité sur ordre de l'empereur Dioclétien parce qu'il refusait de transcrire un édit de persécution contre les chrétiens. Donc Saint-Genès, c'est un patronage que l'on ne trouve pas très souvent, mais qui est généralement très révélateur de l'existence d'une paroisse initiale, une paroisse, ce qu'on appelle une paroisse matrice. Donc il est fort probable que c'est là, par exemple, qu'un premier centre de christianisation a pu voir le jour et qu'il s'est diffusé progressivement. Par ailleurs, en Marsan, il existe d'autres établissements antiques. Certaines villas, comme celle de Saint-Cricq-Villeneuve ou celle de Pujol-le-Plan, ont vu un village se constituer sur le site de l'ancienne villa. Malheureusement, comme le village est entièrement construit sur la villa, eh bien, il est très difficile effectivement d'avoir d'autres éléments, on ne peut pas faire de fouilles. En revanche, on sait qu'à Sarbazan, à la fin du 19e siècle, côté de Roquefort, où se trouve une très belle villa antique sous le village, mais là, à la fin du 19e, on a signalé l'existence d'une nécropole. Et en 1983, on a découvert un sarcophage donc près de l'église, ce qui semble quand même bien indiquer que là aussi, un premier centre de christianisation a pu voir le jour. Il y a enfin un autre exemple qui est celui de la villa de Géou sur la commune de La Bastide d'Armagnac, où on a également découvert une nécropole. Donc voilà, on a déjà quelques centres à partir desquels ont pu se diffuser les premiers éléments de la christianisation. Alors là, il est très difficile de dire exactement à quelle époque, hein, mais en gros, on va dire entre plutôt le 7e et le 9e siècle. Car s'il y a eu des troubles, cela n'était pas forcément très propice à la tenue d'un culte religieux quel qu'il soit. Alors nous ne savons pas du tout sous quelle forme ce culte a pu se perpétuer, mais il s'est poursuivi entre les 7e et 9e siècles, puisque pendant cette période, nous avons environ une trentaine de paroisses supplémentaires qui se mettent en place, ce qui montre bien qu'il y avait une vie religieuse et qu'il y avait donc une population pour cette vie religieuse. Mais nous n'en connaissons pas les détails. Nous arrivons au bout de cette émission. Et je vous propose une chanson de Bernard de Ventadour, qui fut un troubadour du XIIe siècle. Il a vécu à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, puis ensuite à la cour du comte Raymond V de Toulouse. Et il a écrit de nombreuses chansons, dont voici notamment « Canne l'herba fraîche ». Cette émission se termine et la prochaine émission sera consacrée à l'émergence de la Gascogne, disons de la fin du 9e siècle jusqu'au 11e siècle à Dichatz.